Chapitre 15. Samedi 2 décembre. Trois semaines ont passé. Anne est au volant de la Peugeot 205 que sa tante lui a prêtée. Elle va chercher Piem, qui, après une semaine d'hôpital, achève 15 jours de convalescence dans une maison spécialisée. Il ne s'en sort pas trop mal, avec une fracture de l'omoplate et un traumatisme crânien. Sachant qu'il n'a pas de famille disponible dans la région, Anne a tenu à aller elle-même le chercher en banlieue pour le raccompagner chez lui. « Je lui dois bien ça, avec tout ce qu'il a fait et tous les risques qu'il a pris pour m'aider dans mon enquête. J'aurais mauvaise conscience de le laisser se débrouiller avec les bus pour rentrer chez lui. » Anne a, elle-même, passé 10 jours en observation à l'hôpital. Elle a été récupérée dans la voiture accidentée, en état de choc et souffrant de multiples traumatismes. La ceinture lui a sauvé la vie, mais beaucoup de mouvements la font encore grimacer de douleur. Elle est toujours en arrêt de travail et elle revient de 3 jours passés chez ses parents pour les rassurer. Durant la dernière semaine, Anne a pu rendre visite 2 fois à Piem. Cette fois-ci, c'est la bonne. Elle peut l'emmener, le ramener chez lui et le rendre à ses chers ordinateurs qui l'attendent. Piem n'est pourtant pas encore complètement guéri, il porte encore une minerve et doit garder le bras gauche en écharpe. Une fois tous les papiers signés, ils se retrouvent enfin libres, en route pour Paris. Ils vont passer chez eux, rue des Vignes, pour s'y changer, car ils sont de sortie ce soir. Jean-Baptiste, qui, depuis l'arrestation d'Antoine, n'avait guère donné signe de vie, un message de félicitations et une rapide visite à Anne à l'hôpital, donne une soirée en leur honneur. C'est tout de même grâce à eux qu'Antoine a été arrêté, qu'il a été reconnu coupable du meurtre de son père et que Jean-Baptiste a été complètement disculpé. Dans la voiture qui roule vers Paris, Anne et Piem se sourient. Leur complicité et leur acharnement leur a permis de venir à bout de cette enquête difficile sur laquelle la police piétinait. Curieusement, ils parlent peu. Ils n'échangent que quelques réflexions anodines, sans grande portée. Pourtant, ils auraient beaucoup de choses à se dire, puisqu'ils ont été brusquement et violemment séparés en pleine action commune, mais une sorte de gêne mal définie s'installe entre eux. Et si Piem devine la raison de cette timidité réciproque et un peu déconcertante, Anne, qui la ressent aussi, ne comprend pas ce qui leur arrive. Après une douche rapide, Anne remet la robe kimono qu'elle avait achetée spécialement pour sortir avec Jean-Baptiste. Elle est ravie de le retrouver et, repensant à tout ce qu'elle a fait pour lui, elle n'a aucune peine à s'imaginer dans ses bras comme reine de la fête. Elle se maquille même légèrement en pensant lui faire plaisir. Elle se souvient qu'il lui a dit avoir invité beaucoup d'amis pour fêter à la fois l'éclaircissement de sa situation et son démarrage comme artisan à son compte. Piem, dans son appartement, se débrouille comme il le peut pour s'habiller le mieux possible. Une demi-heure plus tard, il se retrouve sur le palier. Anne ne sait trop comment Piem a réussi à enfiler une chemise et une veste avec un bras immobilisé, mais il y est arrivé. « Tu es très beau !»« Et toi, la fille la plus charmante que j'ai vue !» Anne rit. « Ce Piem, il faut toujours qu'il fasse l'andouille !»« Bon, tu es prêt? On y va ?» Ils reprennent la voiture, ayant presque tout Paris à traverser, puisque Jean-Baptiste les attend dans son tout nouvel atelier, derrière la gare de Lyon. Malgré la longueur du trajet, tous deux restent silencieux, à part quelques indications échangées sur l'itinéraire le plus judicieux. Quelques bouchons et ralentissements plus tard, ils arrivent en retard et, évidemment, peinent à trouver une place pour se garer. Heureusement, à Paris, c'est très chic d'être en retard à une réception. L'atelier se situe au fond d'une cour. La musique qui s'en échappe guide les invités plus sûrement que n'importe quel plan. Quand Anne et Piem entrent dans cet ancien entrepôt vaste et vide, une cinquantaine de personnes discutent autour d'une table installée en plein centre. Elle est recouverte d'une nappe blanche et chargée de boissons et de petits fours. Piem, de son bras valide, transporte dans un gros sac plastique une unité centrale d'ordinateur qu'Anne reconnaît facilement. Presque aussitôt, Jean-Baptiste se détache du groupe et vient à eux avec un grand sourire. Il embrasse chaleureusement Anne et serre la main de Piem. Puis, haussant le ton pour couvrir les conversations, il dit « Voici les deux héros du jour qui ont pris des risques et ont été blessés pour que la vérité éclate. » Tout le monde applaudit, puis rapidement les conversations reprennent. « Voulez-vous que je vous présente ?» propose Jean-Baptiste. « Avant de commencer les mondanités, j'ai ceci à te remettre, » dit Piem en tendant le sac à Jean-Baptiste. Celui-ci est un peu surpris de se voir offrir un vieil ordinateur. Il interroge Piem du regard. « Tu l'ouvriras tranquillement chez toi, je pense que ça devrait t'intéresser. »« Eh bien, merci beaucoup. »« Oh, il n'y a pas de quoi, je ne suis qu'un intermédiaire dans cette affaire. Tu t'arrangeras avec le véritable donateur. » Ne t'inquiète pas, tu comprendras tout de suite. Alors, merci pour la commission, dit Jean-Baptiste un peu surpris. Allez, on attaque les présentations. Et sans attendre de réponse, il entraîne Anne et Piem et les présente à sa mère, dont ils ont souvent entendu parler sans jamais la rencontrer. Elle les embrasse tous deux en les remerciant pour ce qu'ils ont fait pour son fils. Jean-Baptiste les entraîne ensuite vers son oncle Jérôme. Celui-là, Anne et Piem le connaissent. Ils sont un peu moins fiers tout en se disant qu'il n'y a aucune raison pour que l'ogre les reconnaisse. Mais celui-ci leur déclare tranquillement. Jean-Baptiste m'a raconté. Il paraît que j'étais sur la liste des suspects. Et vous m'avez filé pour vérifier mon alibi. Bravo, excellent travail, je ne me suis rendu compte de rien. Anne et Piem sont un peu gênés, ils ne savent quoi répondre. Doivent-ils rire ou s'excuser? Faut-il qu'ils racontent la filature dans le détail? Heureusement, une jeune fille, une petite brunette aux cheveux courts et à l'air décidée, vient d'entrer. Elle s'arrête une seconde pour repérer qui est là, puis vient directement sur eux. Aussitôt, Jean-Baptiste fait les présentations. « Je te présente Anne et Pierre-Emmanuel, mes sauveurs. » La jeune fille leur adresse un joli sourire de remerciement. Et voici Amélie, ma copine. La jeune fille sourit. Anne pâlit, elle tourne la tête vers Jean-Baptiste, qui ne semble pas remarquer son regard interrogatif. Amélie prend la parole. Vraiment, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour JB. Depuis 2 mois, entre le meurtre de son grand-père et les accusations odieuses de la police, Jean-Baptiste était hyper stressé, il n'arrivait plus à dormir. Depuis l'arrestation d'Antoine, il revit enfin. Je ne sais comment vous remercier, surtout que vous avez été assez malmené. » Piem sourit et apprécie ses paroles, mais Anne ne se sent pas très bien. Piem doit la soutenir et l'aider à s'asseoir sur une chaise. Amélie se précipite et lui apporte un verre de jus de fruits en disant « Avec le choc qu'elle a reçu, elle a sûrement encore besoin de beaucoup de repos. » Jean-Baptiste s'est éloigné pour accueillir d'autres invités. Anne est livide. Elle s'adresse à Piem. « Viens, on s'en va. Je ne veux plus le voir. »« Attends une minute, » répond Piem qui s'éloigne et interpelle Jean-Baptiste. « Tous ceux qui nous ont aidés pour cette enquête sont invités ?»« Non, j'aurais bien voulu, mais ce n'était pas possible. Nous sommes déjà si nombreux. »« Ok, je comprends. » Piem revient vers Anne. Tu as raison, on peut s'en aller, on n'a plus rien à faire ici. Anne se lève, ils sortent discrètement. Une fois la porte passée, Anne fond en larmes. Piem la soutient comme il peut de son bras valide. Ils montent en voiture. En quelques mots entrecoupés de sanglots, elle tente de s'expliquer. Le salaud! Sa copine! Il me draguait! Juste pour s'amuser, pour se foutre de moi !» Aussi délicatement qu'il le peut, Pierre-Emmanuel cherche à consoler Anne, mais sans grand succès. Au bout d'un moment, elle se calme tout de même un peu. « Je suis désolée, » dit Piem, « mais on va avoir besoin que tu conduises si nous voulons rentrer. »« Ça va aller, » répond Anne, « je vais ouvrir ma vitre, ça me réveillera. » La voiture démarre. Paris a traversé de nouveau. Anne reste triste et songeuse. Piem ne sait trop quoi lui dire. Dimanche 3 décembre. Le lendemain matin, Anne retourne à la boulangerie et reprend le travail. Elle a encore droit à une semaine d'arrêt, mais elle a absolument besoin de voir du monde, de faire quelque chose, de se rendre utile. D'autant qu'elle se retrouve toute seule, son seul ami, Piem, est parti pour la semaine dans sa famille. Elle est en pleine déprime et se demande ce qui lui a pris de se lancer dans cette aventure qui ne lui a apporté que des désagréments et des espoirs déçus. Même ses soi-disant nouvelles amies, Marianne, Chloé, ne prennent plus la peine de lui envoyer le moindre message d'amitié. Elle se sent vidée, épuisée, avançant comme un robot, sans aucun but. Heureusement que les horaires de la boulangerie l'obligent à garder un rythme de vie, mais les après-midi passent très lentement. Samedi 9 décembre. Il est 18h. Anne est penchée sur son puzzle qui commence à prendre forme car elle y passe beaucoup de temps. On frappe à la porte. Surprise, elle se lève pour aller ouvrir. C'est Piem qui apparaît, souriant, visiblement en pleine forme, sans Minerve. Bonsoir, Anne, ça va mieux ? Anne ne répond pas. Elle hausse seulement les épaules, c'est tout dire. Piem entre, referme la porte derrière lui, prend une chaise et s'assoit en face du puzzle, à côté d'Anne qui vient reprendre sa place. Voilà, dit-il, j'ai cru comprendre que tu te faisais une grande joie de la soirée de Jean-Baptiste la semaine dernière. Tu ne voudrais pas me parler d'autre chose ? Non, écoute-moi jusqu'au bout. Tu as été doublement déçu. D'abord, par le manque de reconnaissance et l'odieuse trahison de Jean-Baptiste, et ensuite, parce qu'aucun de ceux qui nous ont aidés n'était invité. Tu n'as donc pas pu clôturer l'enquête comme tu le rêvais. Tu parles bien. C'est que ça fait plusieurs jours que je prépare mes phrases. Alors continue. Il ne faut pas que je te fasse perdre le fil. Alors, cette soirée ratée, j'ai pensé qu'on pourrait la refaire et la réussir cette fois-ci. Oui, dit Anne sans grand enthousiasme, mais avec une petite lueur d'intérêt. Alors, c'est ce soir. Tu as juste le temps de t'habiller. Mais je suis habillée. Oui, pour bosser. Mais là, on va faire la fête et tu en seras la reine. Tu ne peux pas y aller comme ça. Comment veux-tu que j'y aille ? Mets une belle robe. Je n'en ai pas. Tu ne veux tout de même pas que je remette celle de la semaine dernière, celle que j'avais achetée pour Jean-Baptiste. D'ailleurs, il faut que je la jette. Non, mais tu en as une autre. Laquelle ? Celle que Monique t'a donnée et que tu as portée une fois pour dîner au restaurant avec moi. La robe bleue, mais c'était une sorte de déguisement. Peut-être, mais elle t'allait divinement bien et tu m'avais promis que tu la remettrais quand l'enquête serait terminée. C'est vrai, mais...
Mais quoi ?
C'est une robe de soirée trop déshabillée. Il fait froid et je prendrai mal. Aucun risque. Nous allons dans un endroit très bien chauffé et une voiture va nous y conduire. Tu peux de nouveau conduire ? Pas encore. Bientôt. Mais ce n'est pas moi qui vais conduire. Cette voiture sera équipée d'un chauffeur. Elle nous attendra en bas à 19h précises. Tu as juste le temps de te préparer. C'est toi qui as manigancé tout ça ? Disons que j'ai eu l'idée de départ, mais ensuite je n'ai plus rien fait pour la bonne raison que je n'étais pas là. Tu tiens vraiment à ce que je mette cette fameuse robe ? Je tiens vraiment à ce que tu sois la plus belle ce soir. De toute façon, avec la tête que j'ai en ce moment, c'est raté. D'ailleurs, tu me l'as dit toi-même dès que tu m'as aperçu avec, chez Monique, je n'ai pas la tête qui va avec cette robe. Regarde-moi, fais-moi un sourire. Mieux que ça. Eh bien, voilà, merveilleux. Là, tu as une tête qui va parfaitement avec ta robe. Allez, je te laisse te préparer. Je reviens te chercher dans une demi-heure. Piem sort. Anne soupire. Elle se demande si elle a bien envie d'aller à cette fête. Ne ferait-elle pas mieux de continuer tranquillement son puzzle ? Et puis, elle travaille le lendemain et doit se coucher tôt. Mais comme elle n'a pas le courage de courir après Piem pour lui annoncer qu'elle ne vient pas, elle se décide à se préparer. Une demi-heure plus tard, Piem réapparaît. Il a fière allume en costume sombre et chemise blanche avec un nœud papillon. Il ne peut s'empêcher d'admirer Anne, superbement mise en valeur dans sa belle robe bleue. Elle finit de se coiffer et lui sourit. « C'est bien ce que je disais. Dès que tu souris, c'est merveilleux. Ta robe va parfaitement avec ton sourire. N'arrête pas de sourire, surtout. » « Tu ne serais pas en train de me draguer, toi, par hasard ?»« Ma foi, ce n'est pas impossible. » Anne ne répond rien. Elle a comme une révélation intérieure. Piem, son compagnon d'aventure, l'ami fidèle, serait amoureux d'elle. Jamais encore cela ne lui était venu à l'idée. Piem regarde sa montre. « Sans vouloir te bousculer, il faut y aller. »« Ok, on y va. » En sortant de l'immeuble, Anne remarque tout de suite une luxueuse voiture noire stationnée au milieu de la chaussée qui crée un début d'embouteillage. Trois voitures attendent derrière elle et commencent à s'impatienter. Comme toujours en pareil cas, Anne se dit que les gros riches ne manquent pas de culot et se fichent ouvertement du monde. Elle aperçoit le chauffeur, casquette et gants blancs, sortir prestement et aller ouvrir la porte arrière de la berline. Curieusement, elle ne voit pas la VIP censée monter dans la voiture. Repensant à la soirée qui les attend, elle se retourne vers Piem, qui sort derrière elle. « Tu es garé où ?»« Mais avance, juste en face de toi. » Anne regarde devant elle et comprend enfin que c'est elle que le chauffeur à casquette attend en tenant la portière ouverte. Mais elle a encore un doute, elle se retourne de nouveau vers Piem. C'est pour nous ? Mais oui, monte ou tu vas te faire lyncher par les impatients qui attendent derrière. Anne obtempère et monte dans la luxueuse voiture. Toutefois, en passant près du chauffeur qui garde toujours la tête baissée, elle est un peu étonnée, c'est une femme. Elle n'a pas le temps de détailler son visage car elle est suivie de très près par Piem et elle doit se glisser sur le siège du fond pour lui faire une place. Elle apprécie le moelleux des sièges, mais intriguée, elle attend que le chauffeur prenne sa place au volant pour mieux le voir. Elle est encore plus surprise quand il lui semble que le chauffeur, avant de monter, adresse une grimace impertinente au véhicule qui s'impatiente derrière et qui réponde par quelques coups de klaxon bien sentis. « Bienvenue à bord, messieurs dames !» annonce une voix qu'Anne reconnaît immédiatement. « Chloé !» « S'il vous plaît, madame, pas de familiarité avec le personnel. Ayez la bonté d'attendre que nous soyons arrivés et que je sois redevenue votre copine. » Anne ne dit plus rien, mais elle pense que la soirée s'annonce bien et qu'elle va bien s'amuser. La Jaguar de feu Monsieur le Comte fait un petit tour de quartier et vient se garer rue Raynouard devant un immeuble qu'Anne reconnaît. « Nous allons chez la comtesse !» ne peut s'empêcher de crier Anne, soudain toute joyeuse. Chloé descend vivement et ouvre la portière. Tout en restant sur la réserve, elle ne peut s'empêcher d'adresser au passage un immense sourire à Anne. Tandis que Chloé remonte en voiture pour aller la garer, Piem appelle à l'interphone. Ils montent au quatrième. La porte palière de l'appartement de la comtesse s'ouvre sans qu'ils aient besoin de sonner. Piem, toujours galant, laisse entrer Anne la première. Et c'est sous les applaudissements qu'elle entre et reconnaît ceux qui l'ont aidée durant les 2 mois de l'enquête. Ils sont tous là en grande tenue. Il y a Hermine, la comtesse d'Armentières, qui l'accueille et l'embrasse. Marianne est venue de Blois, Laurent, le collègue de Piem, et sa femme Monique, avec laquelle Anne s'était si bien entendue. Il y a aussi Madame Claudie, la concierge de l'immeuble qu'on reconnaît à peine, avec une coiffure impeccable et une superbe robe écarlate. Il y a Piem, bien sûr, et Chloé qui arrive en courant après avoir garé la voiture et s'être changée. Elle ne passe pas inaperçue dans une robe jaune-orangée avec des trous un peu partout qui laissent voir sa peau à divers endroits. Anne embrasse tout le monde avec beaucoup d'émotion. Puis la comtesse annonce. Je suggère que nous passions à table, comme nous avons beaucoup de choses à manger et beaucoup de choses à nous dire, il va nous falloir du temps. » Il passe dans la salle à manger qu'Anne ne connaît pas. Sur une grande table ovale qui tient le milieu de la pièce, un fastueux couvert est dressé. de belles assiettes en porcelaine, des verres de cristal, de l'argenterie et des fleurs un peu partout. C'est très beau. La comtesse invite Anne à s'asseoir à sa droite et celle-ci ne peut s'empêcher de lui dire « Vous avez dû vous donner un mal fou pour préparer tout ça, et le repas en plus !»«
Ma chère Anne, vous, vous vous êtes donné beaucoup de mal pour votre enquête. Moi, je me suis contentée de donner quelques idées à Chloé, qui s'est chargée de mettre à la table. Quant au repas, cela m'a pris une demi-heure d'entretien avec le traiteur pour décider du menu. Alors, qui de nous deux a eu le plus de peine ?»
Anne ne sait plus quoi répondre. Elle se dit qu'il serait indécent de parler du prix du traiteur. Mais tandis que l'entrée arrive sur la table, Piem prend la parole.
Merci d'être tous venus pour clôturer cette enquête à laquelle vous avez plus ou moins volontairement participé. Pour que tout le monde puisse connaître l'intégralité de l'histoire, je propose qu'à tour de rôle, chacun raconte dans le détail ce qu'il a fait et tout ce qu'il sait ou a pu apprendre concernant l'enquête et ses différents acteurs. Je crois que nous sommes tous curieux d'apprendre des détails, voire des parties entières de cette enquête que nous ignorons jusqu'à présent.
C'est une super idée, approuve Anne. Même si je ne pense pas apprendre grand-chose de nouveau, je serai ravie d'entendre toutes les versions.
Détrompe-toi, réplique Piem. Attends-toi à quelques surprises. Qui commence ?
Après discussion, c'est Madame Claudie qui commence le tour de table. Elle raconte comment Anne est venue la trouver pour qu'elle l'aide à retrouver Jean-Baptiste Perrier, le petit-fils d'Émile, qu'elle avait croisé dans l'escalier et dont elle était tombée immédiatement amoureuse. Anne sent un peu de tristesse lui venir au cœur à cette évocation, mais ce n'est qu'un petit nuage et la présence animée de ses amis a tôt fait de lui redonner le sourire. C'est la comtesse qui prend ensuite la parole. Elle raconte dans le détail les visites d'Anne, y compris le thé au petit four. Elle rend grâce à Anne de lui avoir proposé Chloé comme femme de chambre, cuisinière, chauffeur,
esclave, la coupe Chloé.
Oui, voilà, Chloé, mon esclave. Et avec mon esclave, j'ai passé mes plus merveilleuses vacances depuis des années.
Moi aussi, rajoute Chloé qui en profite pour prendre la parole. Elle raconte comment Anne l'a ramassée à la petite cuillère sur l'autoroute, comment elles sont allées squatter chez Marianne et comment Anne l'a réveillée en pleine nuit pour l'envoyer tirer les vers du nez à la mère d'Antoine. Enfin, elle remercie Anne d'avoir eu l'idée géniale de la placer chez la comtesse. Marianne, un peu plus timide, sent que son tour de parler est arrivé. Elle raconte l'ambiance que les deux filles ont mise dans sa maison quand elles ont débarqué par surprise un jeudi après-midi. Elle parle de l'enquête qu'elle a poursuivie seule pour dénicher Antoine et enfin raconte ce qu'elle nomme la nuit de l'horreur où, planquée dans la fourgonnette, gelée et luttant contre le sommeil, elle a suivi, angoissée, tout le parcours d'Anne et de Piem dans la maison d'Antoine et assisté au départ d'Anne, les mains sur la tête, un pistolet braqué sur son dos. Laurent et Monique prennent ensuite la parole et racontent comment ils ont été amenés, un dimanche après-midi à l'improviste, à prêter l'un sa voiture et l'autre une robe de soirée. Anne les remercie.
« Exactement celle que j'ai sur le dos et que Monique m'a ensuite offerte. Cette même robe que Piem m'a fait jurer de remettre quand l'enquête serait close. Et vous voyez que je tiens ma promesse. »
Laurent, en se tournant vers Piem, reprend la parole.
« Peut-être serait-il bon, cher collègue, que tu t'expliques un peu sur notre relation. »«
Oui, répond Piem. Anne, je t'ai menti. Pas beaucoup, disons que je ne t'ai pas tout dit. Je voulais que tu continues à me considérer comme l'étudiant bricoleur que tu as aperçu une nuit par la fenêtre alors que tu te promenais sur les toits. »
Anne écoute de toutes ses oreilles. Elle trouve que Piem tourne autour du pot et qu'il a du mal à cracher le morceau. Elle n'arrive pas à imaginer de quoi il peut s'agir.
En fait, continue Piem, Laurent n'est pas tout à fait un collègue, c'est mon patron. Quand je lui ai téléphoné pour lui emprunter sa voiture, je lui ai demandé de jouer le jeu pour qu'Anne ne devine pas nos vrais rapports et qu'elle se sente plus à l'aise.
Anne est un peu surprise, mais trouve que finalement, un mensonge par délicatesse est facile à pardonner, et cela ne change pas grand-chose.
mais Laurent reprend la parole. En fait, Piem n'a encore rien dit. Mais puisque son humilité le gêne trop, moi, qui suis plutôt orgueilleux, je vais parler à sa place. Ingénieur de formation, après avoir travaillé dans une grosse boutique d'équipements électroniques, j'ai monté ma propre boîte il y a 3 ans. Nous fabriquons et commercialisons tout ce qui peut être utile aux détectives privés et agents secrets, des mini-caméras, des micro-espions et même des véhicules dans le genre des gadgets qu'on voit dans les films genre James Bond et compagnie. Anne repense à la fourgonnette aux vitres sans teint et au fantastique appareil photo que Piem lui avait prêté. L'entreprise s'est développée très vite. Le marché est très demandeur. Nous sommes actuellement un peu plus de 30 personnes et nous serons sans doute 70 d'ici 1 ou 2 ans. Mon principal problème est de proposer sans arrêt des nouveautés attractives à mes clients. Des gadgets qu'ils sont prêts à payer n'importe quel prix pour être les premiers à les avoir. Dans les débuts, j'ai conçu moi-même un certain nombre de produits. Puis, n'ayant plus assez de temps pour ça, j'ai embauché un ingénieur, puis 2. Enfin, j'ai compris qu'il fallait passer à la vitesse supérieure et monter un véritable service de recherche et de développement des nouveaux produits. Service qui sera la véritable locomotive de l'entreprise. Et pour diriger ce service, il me fallait un homme d'exception. Je me suis adressé à la meilleure école d'ingénieurs et j'ai proposé le poste au major de la promotion qui sortait, à Pierre-Emmanuel. Et il a accepté. J'ajoute qu'en quelques mois, il a fait un travail extraordinaire et que le service dont je rêvais est maintenant bien en place et au travail. Déjà, de nouveaux produits commencent à voir le jour et beaucoup d'autres sont à l'étude. Anne est subjuguée. Elle regarde Piem avec surprise et admiration. Elle s'était déjà rendue compte que derrière l'étudiant attardé et le savant fou se cachait un homme qu'elle avait petit à petit reconnu comme doux et décidé, attentif et responsable, mais jamais elle ne s'était doutée qu'il pouvait avoir de telles qualités professionnelles et qu'il était le cerveau, le pilier de toute une entreprise. Piem prend la parole. En plus de toute l'amitié que j'ai pour toi, Anne, j'ai beaucoup apprécié de t'aider pour cette enquête, car elle a été une expérience très riche, très instructive professionnellement. Pendant 2 mois, je me suis mise à la place de mes clients potentiels, un peu comme l'officier qu'on forme en lui faisant faire un stage de soldat. Je comprends mieux les désirs, les attentes, les peurs aussi de mes clients. Je sais mieux ce qu'ils vivent et ce dont ils ont besoin. Ce qui a été dur, c'est que j'avais très envie d'utiliser et de tester toute une panoplie de matériel que j'avais à ma disposition. Mais je m'y suis refusée, à 1 ou 2 exceptions près, car je tenais à aider Anne dans son enquête et non à récupérer celle-ci à mon profit. Je te pardonne bien volontiers, Piem, de m'avoir caché cette partie de ta vie, car c'était pour une bonne cause. Je reconnais que si j'avais su qui vous étiez, Laurent et toi, j'aurais sûrement eu plus de mal à me sentir à l'aise. Je n'ai pas fini, intervient Laurent. Il me reste quelque chose à dire que même Pierre-Emmanuel, enfin Piem, au fait, merci à toi, Anne, de m'avoir fait connaître le surnom de mon adjoint, que même Piem ne sait pas. J'offre à Anne une place dans la société. Le poste précis reste à définir, mais une fille sérieuse et intrépide, volontaire et consciencieuse comme toi, ça ne court pas les rues. Et j'ai besoin de m'entourer de personnel ayant de telles qualités. Enfin, se tournant vers Anne, qui ne sait plus où se mettre, « Maintenant, c'est à toi de voir. Je ne veux surtout pas te forcer. Si tu préfères la boulangerie, je comprendrai. »« Surtout qu'elle est gourmande !» intervient la comtesse pour détendre l'atmosphère. « Ah oui, ça, c'est vrai !» confirment en même temps Piem et Marianne. Il reste Anne et Piem qui n'ont pas encore parlé. Ils décident de le faire ensemble. Anne commence puisqu'elle était seule au début. Elle raconte le meurtre d'Émile Perrier juste à côté de chez elle, puis la rencontre avec Jean-Baptiste et son désir de l'aider. Elle dit le mal qu'elle a eu à le retrouver, puis comment elle a rencontré Piem un soir alors qu'elle se déplaçait sur les toits de l'immeuble. Piem reprend alors le cours de l'histoire, échangeant régulièrement de narrateur. Ils reprennent toute l'enquête jusqu'au bout. Piem se charge de l'épilogue. Antoine a été arrêté immédiatement après l'accident, les gendarmes ayant constaté qu'il tenait effectivement un pistolet à la main. Il était bien sonné et n'a pas opposé de résistance. Nos récits, toutes les photos que nous avons prises, les fameuses pochettes noires et une visite approfondie de l'appartement d'Émile Perrier ont rapidement convaincu la police. Émile Perrier avait laissé sa maison à son dernier fils quand il est parti vivre à Paris. Il pensait qu'ainsi, avec le capital ou les intérêts d'une location, il mettait définitivement Germaine et son fils à l'abri du besoin. La maison a été louée et Antoine l'a récupérée pour lui quand il a eu 18 ans. Il n'avait fait aucune étude, mais se sentait des dons pour le commerce. Il n'avait aucune connaissance en ébénisterie, mais l'atelier de son père lui a donné l'idée de faire fortune en vendant des meubles. Et les meubles volés revenaient moins cher que les meubles neufs ou les antiquités. Dès leur première visite chez Antoine, les enquêteurs ont tout de suite compris qu'il s'agissait bien d'une affaire de revente d'objets volés. Antoine rachetait des lots de meubles à plusieurs bandes de voleurs qui travaillaient principalement dans le Midi et en Italie. Il les faisait transformer ou maquiller par un jeune ébéniste qui sortait juste de prison et les mettait en vente dans son magasin. Mais Antoine avait des frais, les meubles se vendaient mal et il voulait mener la grande vie. Il a vite été à court d'argent. Il a repris contact avec son père qui a accepté plusieurs fois de le dépanner. Le dimanche 8 octobre, il avait de grosses échéances qui arrivaient à terme et ne savait comment les honorer. Son père le dépannerait bien une fois de plus. Il lui a téléphoné pour annoncer sa visite. Mais Émile Perrier n'a pas répondu. Antoine en a conclu qu'il devait être parti pour quelques jours avec la comtesse qu'il prenait pour sa maîtresse. Croyant trouver l'appartement vide, il résolut de le cambrioler. Il était assez doué pour crocheter les serrures et ne pensait pas avoir de peine à trouver où l'argent était planqué. C'est pour cela qu'il est entré discrètement dans l'immeuble en passant par le garage à vélo et le local à poubelle. Seulement, son père était présent et venait même de quitter Jean-Baptiste. Antoine a dû changer ses plans au dernier moment. En y mettant les formes, il a réclamé de l'argent. Émile Perrier a hésité, puis accepté, à condition que ce soit la dernière fois. Il a ouvert la cachette du tiroir devant son fils pour lui compter la somme convenue. Quand Antoine a vu tout ce qui restait dans le tiroir, sachant qu'il n'y aurait plus rien pour lui, car son père n'était pas du genre à revenir sur ce qu'il avait dit, il résolut de s'en emparer au plus vite. L'occasion s'est présentée immédiatement. Le vieillard avait le dos tourné, il était assis et il écrivait. Antoine savait que personne ne l'avait vu entrer, l'occasion était trop belle pour un être sans le moindre scrupule. Il saisit un gros saladier en bois tourné posé dans la cuisine et frappe son père. Il récupère la totalité de l'argent, par dérision inscrit le montant restant sur le carnet et disparaît comme il était venu. « Je pense qu'il est en prison pour un bout de temps. »« Oui, il y a des chances. »« Voilà toute l'histoire, » conclut Anne. « Tu oublies encore quelque chose, » dit Piem. « Non, qu'est-ce que j'oublie ?»« La soirée de la semaine dernière. »«
Je n'ai pas trop envie d'en parler. » »«
Mais nos amis ont le droit de tout savoir comme nous leur avons promis. » Anne se concentre quelques instants dans un silence impressionnant, puis se lance.
« Il faut que je vous avoue que j'ai succombé au charme de Jean-Baptiste. Je l'ai cru sincère, mais il avait déjà une copine et voulait juste me séduire, histoire de me rajouter sur son tableau de chasse. Au départ, il s'agissait de faire semblant, de jouer les amoureux pour déjouer les soupçons de la police qui le surveillait. Bêtement, je me suis prise au jeu et nous avons fini par sortir ensemble. Heureusement, nous n'avons pas eu le temps d'aller trop loin, mais j'étais emballée à l'idée de le revoir et de reprendre notre liaison amoureuse sitôt rétablie. Il est venu me voir une fois à l'hôpital et j'étais juste un peu surprise qu'il ne m'ait pas donné d'autres signes de vie. Samedi dernier, ce devait être nos grandes retrouvailles et il m'a présenté sa femme comme si c'était naturel, il n'avait même pas l'air gêné. »
Anne doit essuyer une larme qui mouille ses yeux, puis elle poursuit.
« Au moins, maintenant je suis vaccinée, je ne me ferai plus avoir. Il peut toujours se frotter, le gars qui voudrait m'attirer en m'invitant à dîner. » Justement, reprend Piem en faisant une drôle de grimace, je pensais t'inviter à dîner un soir de cette semaine.
Anne s'arrête, elle ne sait plus que répondre. Elle reste interdite quelques secondes, puis toute rougissante, elle dit
« Je veux bien, Piem, j'accepte. »
Et pour cacher sa confusion, elle se lève et court se jeter dans les bras de Piem, qui a eu la présence d'esprit de se lever pour l'accueillir.